Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote. France Inter.
On va bouger cet après-midi avec un danseur et chorégraphe bondissant. J'ai du mal à retenir le nombre d'activités que mène Mehdi Kerkouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron du Centre chorégraphique national de Créteil. Vous avez une compagnie, MK. Le cinéma, la télé, la pub font appel à votre talent de chorégraphe, sans parler des chanteurs qui dansent en scène grâce à vous. Dans les salles tourne toujours le ballet portrait avec 9 de vos danseurs. Vous êtes sensible aussi à la transmission en enseignant la danse à des jeunes, mais aussi en faisant danser des gens qui en ressentent le besoin. Vous avez choisi comme invité un producteur et pas des moindres. Bonjour Thierry Suc.
Bonjour.
Il suffit de dire le nom d'une seule artiste que vous produisez pour comprendre votre haut niveau professionnel, c'est Mylène Farmer.
Et oui.
Dans le grand atelier, on parle aussi de l'actualité culturelle. Je rappellerai qui était Maurizio Pollini, immense pianiste italien qui vient de mourir à 82 ans. Et nous ferons un tour dans l'exposition parisienne d'un peintre figuratif qui s'appelle Thomas Lévillane.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
J'aimerais d'abord évoquer la mémoire d'un interprète considéré comme l'un des plus grands pianistes au monde. Maurizio Pollini est mort le 23 mars en ayant consacré sa vie à son instrument. Combien de concerts a-t-il donné? Combien de disques enregistrés? Combien de compositeurs abordés avec ce jeu d'une diversité infinie de nuances et de couleurs? Entendez une étude de Chopin, vous pouvez écouter aussi Bach, Beethoven, Debussy. Dans les salles du monde entier, Pollini a joué les classiques, notamment chez lui, à la Scala de Milan, ce qui ne l'empêchait pas dans les années 70 de jouer devant des ouvriers, dans les usines, ou un petit peu plus tard, pour la paix au Vietnam ou contre les dictatures en Amérique latine. En 1960, l'étudiant Pollini n'a que 18 ans. Il remporte haut la main à Varsovie le concours international Chopin. Un membre du jury déclare « Il joue mieux qu'aucun d'entre nous ». Et ce juré, c'est Arthur Rubinstein, qui en plus d'être un maître, deviendra un ami. Aussitôt, les chefs prestigieux réclament le jeune prodige, de Carl Böhm à Boulez, en passant par Karajan ou Muti. Pas un compositeur classique ne lui échappe. Les qualificatifs adressés à son jeu se comptent par dizaines. Clair, précis, ample, mélodieux. Le public applaudit Pollini le classique, mais le pianiste n'hésite pas à les surprendre et même à les dérouter en ayant soif de nouveautés. Il se tourne, non sans audace, vers la musique de son temps. Schoenberg, Berg, Stockhausen, ainsi que ses compatriotes Luigi Nono ou Luciano Berio. Élevé par un père architecte, petit-fils d'un sculpteur, il était pris de modernité. Ses programmes, il les compose en revendiquant un égoïsme forcené, parce qu'il faut selon lui d'abord se faire plaisir pour satisfaire ensuite les auditeurs. À la liste de ses compositeurs aimés et souvent joués, ajoutons Brahms. Maurizio Pollini, 1942-2024, nous écoutions de Brahms par le pianiste l'Allegro du concerto pour piano numéro 2 en si bémol majeur. Je me tourne vers vous, Mehdi Kerkouche, danseur et chorégraphe contemporain. Est-ce que le piano peut-être un instrument qui inspire le mouvement.
J'écoutais Schubert en venant dans le métro, donc oui, complètement, c'est tout, c'est les mélodies, c'est l'émotion que dégagent les grands artistes, mais les grands compositeurs aussi qui nous inspirent à danser, c'est formidable.
Oui, parce que quand on pense à vous, on pense davantage à des musiques urbaines, au rap, aux musiques électroniques.
Ah bon?
Oui, moi j'ai plutôt cette idée très contemporaine.
Non, pourtant on a dansé et on a fait des créations sur plein d'œuvres de styles et de genres différents. Ça fait 3 ans que je mets en scène l'ouverture des Victoires de la musique classique, ça fait...
Ouais.
Non, il n'y a aucune limite, il n'y a aucune frontière à la danse, c'est ça qui est beau.
Et ça vous ennuie d'être dans une catégorie d'ailleurs?
C'est pas moi qui me l'impose, hein. Moi je danse, après c'est les gens qui décident comment ils le visualisent, mais non, la danse elle parle pour tous, c'est par tous les moyens, par tous les spectres possibles.
Thierry Suc, que vous entendiez la qualité, le niveau de Pollini, qui était salué partout depuis très longtemps, peut-être que vous avez envie de produire des pianistes?
Le problème du métier que je fais, c'est les compartiments. J'ai toujours essayé de briser les mondes qui souvent sont parallèles mais ne se rencontrent pas. Donc ça fait partie un petit peu de mon chemin. Mais pour l'instant, les pianistes classiques, ce n'est pas encore arrivé, car l'accès aux grandes maisons de d'art lyrique et classique est plus compliqué lorsqu'on est un producteur privé.
Donc vous frappez aux portes en vain, peut-être?
Souvent en vain.
Hein, souvent. mais vous y arriverez un jour, Thierry Suc. Quand vous serez grand, on vous retrouve avec Medicare Couche dans un instant sur France Inter, après avoir écouté une nouvelle chanson de la New-Yorkaise Yaya Bey.
Always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remember thing, for you live to regret that. Now you go front on me.
Yaya Bey, Chasing the Bus sur France Inter.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Mehdi Kerkou, je le disais tout à l'heure, vous dirigez le Centre chorégraphique national de Créteil depuis un petit peu plus d'un an. Vous avez une compagnie, vous avez un ballet qui tourne en ce moment. Vous êtes en train de réfléchir au prochain ballet. Vous m'avez dit, je suis très angoissé. Je dors à peine tellement j'ai plein d'images qui arrivent et de mouvements. J'ai quand même envie de vous demander si vous êtes un artiste heureux.
Oui, c'est une chance incroyable de vivre tout ce que j'ai la chance de vivre.
Bah d'ailleurs, vous êtes toujours très souriant.
Ah bon?
C'est vrai.
Bah oui, en tout cas quand je... Non, ça m'arrive de pas sourire, hein, je vous rassure.
Vous pourriez d'ailleurs répondre, je suis plus angoissé qu'heureux.
Je suis très heureux. Je suis très heureux. Quand on fait le bilan et quand on fait le point quand même, c'est assez extraordinaire. Et je suis consciente de tout ce que je vis au quotidien. J'ai la chance d'être un artiste déjà. Et c'est une grande chance de pouvoir en vivre. C'est une grande chance de pouvoir le faire au quotidien. C'est une grande chance de pouvoir s'exprimer, de trouver tous les vecteurs et puis que les gens le rendent aussi. Parce que je pourrais être tout seul dans ma chambre à fantasmer l'idée de danser au quotidien. Et puis non, bah là, ça touche des gens, ça touche du monde, donc ça fait plaisir.
Thierry Suc, est-ce que votre rôle, il est d'accompagner aussi l'état psychologique de vos artistes? C'est pas simplement de trouver des sous pour monter un spectacle. Il y a un accompagnement quand on est producteur.
Ah oui, quotidiennement. C'est d'ailleurs la partie que je préfère. Trouver les sous, je laisse ça à des gens qui travaillent avec moi. Mais le plus intéressant, c'est ça. C'est d'être une sorte de caméléon qui, du matin au soir, va changer 10 fois de personnalité suivant à qui je m'adresse.
Mais vous avez plus de 30 artistes.
Je ne sais pas, j'ai pas compté, mais c'est possible, c'est possible.
Et comment vous faites pour être aussi proche d'eux, alors qu'ils sont très nombreux?
Ça prend beaucoup de temps dans ma vie, mais c'est une chance. Je rebondis sur ce que Mehdi vient de dire, je viens rêver éveillé. Donc c'est une chance quotidienne et permanente d'arriver à avoir tous ces grands noms de la musique, de l'humour, du théâtre, de la danse qui me font confiance. Donc c'est une chance gigantesque.
Vous connaissez bien Mehdi Kerkouche?
Alors, on s'est croisés, hein, c'est ça. On s'est croisés deux fois. On se connaît pas. On s'est croisés, on s'est salués. Première fois, c'est à l'Opéra Garnier.
Je pensais même pas qu'il répondrait positivement à l'invitation. Moi, je me suis dit, faut rêver grand. Donc, allez, invitons Thierry.
Moi, ça m'a touché.
J'aimerais savoir pourquoi Mehdi Kerkouche invite Thierry Suc, producteur, on l'a dit, de Mylène Farmer, mais aussi, par exemple, de Muriel Robin ou Valérie Lemercier.
Mais moi,
qui a aussi produit en son temps David Bowie.
Moi, c'est depuis gamin, ce sont des artistes que j'admire, que je regarde, qui inspirent aussi énormément à plein d'endroits. Et aujourd'hui, on s'est croisés déjà de nombreuses fois. Je sais les gens qu'on a en commun, qui sont des gens que j'estime énormément, qui sont d'une bienveillance incroyable, qui sont d'une gentillesse et d'une générosité.
Qui sont des gens qui font quoi?
Ladislas Chola, par exemple, on s'est
metteur
rencontré
en scène.
Grâce à Ladislas, qui est un metteur en scène. Moi, j'ai eu la chance de jouer dans son premier long métrage. Et Ladislas, du coup, qui m'a donné ma chance de jouer au cinéma, est quelqu'un d'une générosité, d'une positivité. Et c'est un plaisir de travailler avec lui. Et je sais que c'est un très proche de Thierry. Donc, j'imagine et je fantasme cette idée de l'accompagnement de l'artiste hyper positif, qui sont des valeurs que j'essaye de garder au quotidien. Moi-même avec les danseurs que j'accompagne, parce que j'accompagne beaucoup d'artistes et de danseurs, et c'est inspirant.
Oui, vous aussi, vous avez à gérer des psychologies et des corps.
Oh là, j'ai autant à les gérer qu'ils ont à me gérer.
C'est pas mal, ça.
Et c'est peu dire. L'enfant, Mehdi, je vous demandais si l'adulte était heureux, vous répondez évidemment oui. L'enfant est né à Suresnes le 29 mai 86, fils d'un chef de chantier et d'une employée de maison, tous deux arrivés d'Algérie en France, en 59 pour votre mère, un petit peu plus tard pour votre père. Je précise tout ça parce que vous avez exactement écrit ça sur votre Instagram en janvier, au moment de la loi immigration. Alors je voudrais savoir si ce jeune Mehdi, entouré de quelques frères, était heureux tout petit quand il se mettait à danser.
Ah, il était heureux que quand il dansait.
Et le tout petit Mehdi dansait?
C'était tout le temps. Tout le temps, c'était le problème. C'est-à-dire que moi, j'étais incapable de rester en place. Il y avait de la musique constamment à la maison, maman écoutait de tout. Elle écoutait du Rai, elle écoutait Charles Aznavour, elle écoutait Edith Piaf, elle écoutait absolument tout. Il n'y avait aucune limite, c'était une passion pour la musique. Mes frères écoutaient du rap, écoutaient du hip-hop. Ils étaient possédés et passionnés par ça. Donc il y avait de la musique de tous les styles, de tous les genres, absolument partout à la maison. Et moi, enfant, je regardais la télé, je voyais Prince et je voyais Dorothée. Coq-à-l'âne, et je voyais France Gall, et j'étais fan de la musique, et donc le moyen le plus évident pour moi de l'exprimer et de parler et de faire les choses, c'était de bouger, de danser.
Est-ce que vous étiez un petit peu comme lui, Billy Elliot?
Une dernière question, si je puis me permettre, Billy. Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Je sais pas. Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide. Mais quand je suis lancée, alors j'oublie tout le reste. Et C'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps. Et une sorte de feu dans tout mon corps. Je suis simplement là. Je vole. Juste comme un oiseau. Ou comme de l'électricité.
Quand sort le film, vous avez 9-10 ans. Mehdi Kerkouche, est-ce que vous étiez un peu Mehdi Elliott?
Oh là là, mais moi je venais me marrer et je vais repartir en chialant, ça va pas du tout.
Mais c'est drôle parce que cet extrait assez sentimental vous touche.
Ben énormément. Alors déjà, Billy Elliott, je pense que c'est mon film préféré de ma vie. Hein, je le mets. Ça m'est arrivé régulièrement de faire un top 3. Il a toujours été numéro 1, jamais détrôné.
Totale identification à l'époque?
Non, pas du tout, parce que je pense que j'étais trop jeune pour me rendre compte et j'étais complètement en projection et juste j'étais hyper admirative de ça et c'était top. Et puis moi, j'ai eu la chance quand même d'avoir une maman qui était hyper accompagnante et hyper accompagnatrice. Tant que j'étais heureux, elle n'était pas du tout castratrice ou non, mon fils ne dansera pas. J'ai eu la chance de pas vivre ça.
Elle a senti que c'était votre vocation.
Il y avait pas, et puis il y avait aucune négociation possible. C'était. Elle le dit souvent. Elle dit de toute façon, j'avais pas le choix.
Comme beaucoup de jeunes garçons, c'était pas forcément facile à l'école avec les copains.
Non.
Hein? Non. Il y avait des moqueries.
Oui.
Mais vous avez.
C'est ce qui forge le caractère, je pense, et c'est ce qui fait de grands artistes après, parce qu'on a quand même ce truc en commun avec beaucoup, j'ai l'impression.
Thierry Suc, vous avez des souffrances d'enfant? Enfant dans la banlieue lyonnaise?
Dans la banlieue lyonnaise.
Père ouvrier, mère au foyer.
Et mère au foyer. Ouais,
donc pas du tout dans un milieu à la fois bourgeois lyonnais, vous étiez en banlieue.
Oui, tout à fait.
Et pas du tout dans un milieu de spectacle.
Pas du tout. Je connaissais personne. J'avais pas d'argent. On n'avait pas d'argent. C'était pas Cosette, hein. C'était pas Les Misérables, mais c'était. On avait juste ce qu'il fallait. On n'avait pas de salle de bain. On n'avait pas. On faisait comme on pouvait. Et c'était. J'ai grandi en disant, je vais sortir de ce monde-là et de ce milieu-là dès mes 13-14 ans.
Vous vous dites, je veux partir de là.
Je veux partir de là. Oui. Et je n'ai eu de cesse que de rencontrer les personnes qui me permettraient de franchir cette étape et d'emmener les autres avec moi, d'emmener mes frères et sœurs, d'emmener tous les gens que je pouvais emmener avec moi dans une autre dimension.
Parce que c'était l'enfer?
C'était pas l'enfer, mais c'était pas drôle, c'était pas joyeux, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver. Enfin, c'est, encore une fois, je veux pas faire Les Misérables, mais c'était pas génial. Voilà. Il y avait pas de culture, il y avait pas de, et moi, je sais pas pourquoi j'avais ça en moi, mais il fallait de la culture, il fallait de la musique, il fallait tout ce qui était pas possible et que mes parents n'avaient pas. Donc, voilà.
Est-ce que quelqu'un vous montre le chemin de la culture ou ça vient tout seul?
Alors déjà, je pense qu'il y avait une détermination, et puis ensuite, il y a des rencontres, il y a des personnes déterminantes tout au long du chemin. Je crois que tous les jours, on se réveille, on va à droite ou à gauche. Et bien, je sais pas pourquoi, mais je suivais toujours le bon côté, et j'arrivais à monter tout doucement et à me retrouver à 19 ans à produire Véronique Sanson, hein, ouais. Par exemple, si on veut en raccourci.
Et Bowie, vous le rencontrez quand?
Mais ça, lorsque j'avais 15 ans, je fais un rêve, c'est réel, hein, je fais un rêve en disant je dîne avec David Bowie. Et ça, dans mon histoire, c'était improbable, impossible, enfin je voyais pas comment on pouvait accéder à cette grande star mondiale. Sauf que j'ai eu qu'une chose en tête, c'est d'y arriver. Et donc par différents chemins, je me suis débrouillé pour être dans cette histoire-là. Et à 26 ans, j'ai produit le Glass Paris de retour en France. Et c'était un rêve de dîner en tête-à-tête avec lui. C'était à Toulouse. D'aller au bain-douche avec lui, dîner avec Bono et lui. À 26 ans, pour moi, c'était... Mon rêve étant réalisé, je pouvais ensuite avancer et faire autre chose.
Une réaction de Mehdi Kerkouche, qui a souhaité votre présence.
Bah, c'est très inspirant et c'est très impressionnant, mais je me retrouve énormément dans ce qu'il raconte, parce que je suis née en banlieue, j'ai grandi en banlieue, effectivement, il y avait peu de moyens, mais il y avait beaucoup d'amour. Moi, il y avait pas de, c'est pas parce que, souvent je dis, mais faut pas prendre un air défaitiste quand on nous parle de la banlieue, on n'y a pas que des mauvais souvenirs, on y a construit des choses formidables et ça a forgé nos caractères et ça a fait notre passion, ça a créé la flamme et la vibration.
Et dit de Préto pourrait dire la même chose que vous de...
Sans doute, oui.
Et il est de Créteil en plus.
Il est de Créteil, ouais. Il a chanté Créteil.
Absolument.
Et dîner avec Bowie, pardon, je suis un peu midinette, moi. Je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous n'en revenez toujours pas alors que vous l'avez produit des années après.
Si, parce que ce qui est drôle, c'est que juste après ce moment-là, je me suis cassé la gueule et j'ai tout perdu.
Oui, heureusement, parce qu'il vous a ruiné.
Il m'a ruiné et heureusement, sinon je serais devenu insupportable, imbuvable en pensant que tout me réussissait.
Il paraît que oui, vous aviez pris un peu le melon.
Je crois, mes amis me le disaient, et il fallait que je me casse la gueule. Mais quand on se retrouve avec plus rien, je pouvais pas payer mon loyer, je pouvais pas. Mais c'était bien. Il a fallu que je rebâtisse et que je reconstruise, et c'est là que j'ai rencontré Mylène.
Vous vous étiez trompé en quoi?
Ah, vous savez, le système anglo-saxon, c'est très différent de travailler avec un artiste français. C'est-à-dire que vous êtes un promoteur et non pas un producteur, et vous êtes celui qui garantit le plus financièrement. Et David Bowie, en 83, avait le single Let's Dance, donc c'était énorme dans le monde entier.
Énorme.
Il avait fait 120 000 personnes, je crois, à Auteuil, à Paris. Et l'agent nous a dit, voilà, il faut garantir au moins 55, 60 000 personnes. Et moi, j'ai fait la Courneuve, et on a fait 55 000 personnes, mais la garantie était au-dessus. Enfin bref, on s'est planté dans tous les stades, c'est-à-dire à Lyon, à Toulouse, à Nice et à Paris. Donc quand tous les soirs, vous perdez 2 millions de francs à l'époque, ce qui fait 300 000 euros, mais ça fait plus que ça en réalité aujourd'hui avec la conversion, ben vous êtes ruiné. Et c'était bizarre, c'était bizarre.
Et vous avez eu des pensées suicidaires?
Non.
Non, je dis ça parce que vous avez eu surtout...
J'ai réalisé le rêve de ma vie, ça n'a pas de prix un rêve.
Et d'autre part, vous avez commencé une analyse.
Ah bah oui, ça, il fallait.
Ça, c'est, moi, ça me plaît beaucoup. Ça.
Sinon, j'étais fou.
Je suis ruiné, certes, j'ai réalisé mes rêves, mais je commence une analyse pour tout remettre à plat.
Mais je continue, hein. Ça ne s'arrête jamais. Hein.
Mais vous vouliez une analyse pour essayer de comprendre quoi?
Bah pour comprendre ma mécanique, c'est-à-dire que quand la vie me donnait quelque chose de trop fort, je n'étais pas capable de la vivre, il fallait que quelque chose se casse. Comme s'il y avait une sorte d'illégitimité à être là où j'étais. Et donc il a fallu que j'accepte, que je place mon ego là où il fallait que je le place, justement. Il a fallu que je comprenne plein de choses, plein de mécaniques, sinon je serais encore dans les turbulences, mais aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Pardon. C'était vraiment, il fallait faire ce travail, et je conseille à tout le monde de faire un travail sur soi à un moment donné de sa vie.
Vous nous donnerez les coordonnées de là ou du psy?
Ben là, malheureusement, elle n'est plus de ce monde, mais celle d'aujourd'hui est formidable.
Mehdi Kerkouche, on a parlé de maman qui écoutait du rail, des frères qui écoutaient...
Ah, j'ai cru que vous alliez me demander le numéro de la mienne. Alors,
on échangera, si jamais.
pour devenir artiste, faites une psychanalyse. Tous les artistes ne disent pas ça. Je me souviens de Signoret, Simone, qui disait « Ne faites surtout pas d'analyse quand vous êtes comédien. Gardez tout pour le moment où on dit « ça tourne ».
Beaucoup ont peur de perdre, mais je sais que souvent ça angoisse de régler ses problèmes. On se dit, mais si je règle mes problèmes, je vais perdre mon inspiration, ou je vais perdre ma flamme, le truc qui me motive au quotidien. Je comprends, ça s'entend.
Après, sur N, vous avez pris des cours, ou dès sur N, l'enfant et l'adolescent commencent à apprendre à danser?
Ah non, dès l'enfance, je vous disais, ma maman m'inscrit à un cours de danse quand j'avais 6 ans.
Et après,
donc j'ai dû arrêter pour des raisons financières, tout simplement. Et en fait... Dieu merci, la culture à l'époque était bien soutenue dans les banlieues, et il y a les MJC qui sont nés, et il y a eu des cours de hip-hop qui étaient gratuits pour nous qui vivions dans le quartier, et j'ai commencé à prendre des cours de hip-hop là-bas, et la prof m'a pris sous son aile en disant « Ah, il y a un petit truc chez toi, viens, on creuse », et j'ai jamais arrêté, voilà.
Tu la revois cette prof ? Pardon.
Oui, on s'est recroisés. Alors on s'est perdu de vue, bien évidemment, avec le temps, parce que c'était il y a très 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 longtemps, et que nos chemins ont pris un chemin différent. Elle a arrêté de danser, elle a fait changement de vie total. Mais on s'est recroisés à un événement il n'y a pas longtemps de danse où elle était venue en spectatrice. Je lui ai dit, mais alors qu'est-ce que tu fais là? Elle m'a dit, ah, j'ai eu envie de revoir des choses, donc ça m'a fait plaisir.
Pendant le confinement, on vous a mieux connu et même souvent découvert, parce que chacun essayait de faire des choses. Effectivement, vous, Thierry Suc, vos artistes étaient confinés chez eux comme nous tous.
Moi, je regardais des séries.
Vous regardiez des séries en mangeant
des chips. Enfin, j'avais le temps de regarder des séries.
Et la psy, c'était par visio?
Non, il n'y a pas de psy.
Je pense qu'elle regardait des séries elle aussi. Faut la laisser tranquille.
Aussi, absolument.
On était tous accros au réseau pour avoir un peu des nouvelles du monde et des autres. Et vous avez inventé un concept absolument formidable que je vous laisse nous raconter, Mehdi.
J'ai fait plein de choses, moi, pendant ce confinement. J'avais du mal à tenir en place. Moi, j'avais de la chance de beaucoup travailler déjà avant d'être confinée. Donc, du coup, j'avais très peur de mettre ma maman en exposition. Donc, j'ai préféré rester seule, isolée chez moi, parce qu'on savait rien du Covid. On savait pas.
Non, mais vous avez inventé les vidéos confinées.
Et du coup, j'ai rien inventé du tout, mais j'ai rebondi sur quelque chose qui m'a inspirée. C'était cool. Je fais des zooms toute la journée. Et tout le monde, en fait. C'était le moyen pour garder le lien social. C'était de se retrouver en zoom ou en FaceTime ou en tout ce que vous voulez avec les potes. Et moi, quand on a fait les premiers avec les copains, je me suis dit, mais attendez, il y a un truc trop marrant à faire, venez, on danse, quoi. Et on a monté cette première vidéo.
Vous aviez vu ça, Thierry?
Ah ben oui, mais c'est là que je l'ai vraiment découvert.
Ah ouais, c'était génial, ça a été très important. Tous les danseurs dansaient chacun chez soi.
Ah ouais, c'était génial.
Et il y avait notamment cette musique-là.
Voilà. Barry.
Barry. Et là, on a...
Que j'ai pris parce que je regardais la série Ally McBeal pendant le confinement. J'étais moi-même en train de mater des séries en même temps.
Essayez de nous dire, Mehdi Kerkouche, ce qui se passait là sur cette musique. Qu'est-ce qu'on voyait, nous qui regardions Facebook?
Alors là, si vous regardiez votre téléphone, vous voyez des danseurs qui sont à Paris, à Lyon, à Biarritz ou autre, continuer de faire le mouvement de l'un et de l'autre, ou aller chercher des choses dans des pièces des autres, ou créer des longs personnages en collant nos visages les uns à côté des autres grâce à ce multicam.
Ça nous faisait du bien. bien Thierry Sue.
Ah oui, vraiment. Moi, je regardais les vidéos, je les envoyais à d'autres gens, ça donnait une sorte de raison. Non, c'était génial.
Oui.
Merci.
Alors. Mais vous aimez le collectif. Vous avez
Je vis pour le groupe.
Une expérience de danseur, mais vous aimez peut-être même plus encore faire danser les autres et le groupe.
Complètement. C'est très rigolo que vous vous disiez ça, parce qu'hier, c'était ce que j'écrivais. Et je disais, ouais, moi, je suis chorégraphe, moi, je suis là pour faire danser les gens. Je suis pas. C'est un plaisir. J'ai dansé, j'ai eu la chance de danser et de faire plein de beaux projets où moi-même j'étais interprète. C'était trop cool.
Mais Kamel Wally vous a repéré un jour. Hein.
Ouais, gamin, c'est lui qui m'a attrapé et qui m'a dit, oh là là, il m'a fait rentrer à l'Académie internationale de danse. Donc c'est là où je me suis formée professionnellement à mon métier, où j'ai découvert la technique et toutes ces choses-là, parce que sinon c'était des choses très instinctives. Et ouais, j'ai fait des premières comédies musicales, mes premiers spectacles avec Kamel. C'était des gros spectacles à l'époque. On a fait Le Roi Soleil et Cléopâtre ensemble. Et avant que je prenne mes propres ailes et que j'aille faire mes propres chorégraphies à côté.
Oui, on vous a demandé beaucoup dans la pub, à la télé. Oh tiens, on a une archive assez drôle où vous montrez à Stéphane Bern comment danse Britney Spears.
Oh.
Allez, on avance.
On donne tout.
Et on recule. Attention.
C'est dommage que vous n'ayez pas les images. À la radio, c'est dommage.
On essaie d'imaginer, surtout Stéphane Bern danser avec
mais
vous.
Mais c'était génial, il est adorable. En plus, il joue le jeu à chaque fois.
Oui,
c'est lui qui m'avait invité.
Il aime bien
c'est
ce genre d'expérience. Vous avez aussi fait danser, je le disais tout à l'heure en introduction, des chanteuses comme Angèle.
Oui.
Et puis Christine and the Queens.
J'ai dansé avec Christine and the Queens. Ouais. C'était Marion Motin, la chorégraphe de Christine and the Queens. Et moi, j'ai eu la chance de l'accompagner en tournée pendant 3 ans, ouais. Au tout début de son projet, c'était génial, c'était une grande chance. Parce qu'on a commencé à un moment où personne connaissait réellement Christine and the Queens. J'avais la chance de la connaître déjà parce que, avec des amis, on s'était envoyé les EP précédents en se disant, tu vas voir, c'est vachement cool, faut danser dessus. Et quand Marion s'occupe d'elle et qu'elle m'appelle pour danser pour elle, je suis trop heureux. Et on commence dans des toutes petites salles de 200 places, des MJC en banlieue parisienne pour se faire la main et on finit, à Coachella et chez Jimmy Fallon et d'être le témoin de ça à ce moment-là de sa carrière, c'était formidable.
On a envie d'écouter un de ses premiers titres, c'était par exemple Saint-Claude.
Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais entier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station. Here's my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, fils. Lié à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire. Que tu respires, pire. D'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Et cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station. Kiss my station. Say
Thierry Suc, producteur français, entre autres de Mylène Farmer, et on a évoqué Bowie à l'instant. Il y avait France Gall aussi.
C'était pour sa comédie musicale, Résiste, et c'est le point aussi commun avec Mehdi, c'est Marion Motin. À ce moment-là, je suis allé chercher Marion Motin pour les chorégraphies.
La chorégraphe,
et ouais. Première fois, et la deuxième fois, c'était pour le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier. Donc on a travaillé deux fois, donc Mehdi est tout proche maintenant.
Qu'est-ce qui fait que vous produisez un artiste? Il vient vous chercher, vous dites oui ou non, j'imagine, mais en fonction de quoi?
Alors, en l'occurrence, France Gall, j'étais en vacances en Italie et je reçois un appel de son avocat qui me dit, voilà, France a une idée de comédie musicale. On avait travaillé ensemble, j'avais 20 ans, j'avais fait un spectacle à Lyon avec elle, on se connaissait pas vraiment. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu peux passer chez elle? Je suis arrivé dans son appartement avec le piano de Michel Berger, j'étais jamais venu ici. Et elle m'a mis quelques chansons et je me suis mis comme un gamin, comme le gamin que j'étais à cette époque-là, à pleurer. Et elle m'a dit, bon, on va travailler ensemble. Et on a fait cette... Voilà comment j'ai choisi, comment j'ai été choisi et comment on s'est choisi.
Donc vous faites un métier totalement affectif.
Je ne fais que ça. Le reste ne m'intéresse pas.
Bah, le reste, c'est quand même beaucoup de millions d'euros.
Oui, mais c'est, je vous dis, c'est pas la partie qui m'intéresse. J'ai pas fait ça pour ça. J'ai perdu beaucoup d'argent dans ma vie. J'ai la chance d'en avoir gagné plus que j'en ai perdu. J'ai la chance de pouvoir être là. Mais ça n'a jamais été un moteur. Je me suis jamais levé le matin en me disant, je vais faire ça parce qu'on va gagner beaucoup d'argent.
Mais c'est énorme l'argent que vous oui. êtes obligé de trouver pour un show de Mylène Farmer, par exemple.
Oui, alors après l'émission serait pas assez longue pour oui. dire, mais les systèmes qui font qu'aujourd'hui on peut s'autofinancer, donc on n'a pas besoin de trouver des millions d'euros. La création, lorsque Mehdi parle de par exemple des gros spectacles comme ceux que tu as pu faire avec Kamel, etc., ou ceux que tu vas faire demain, j'en suis sûr. Là, il faut aller chercher de l'argent parce qu'on part de zéro. Un artiste qui a une grande notoriété en public, les billets se vendent, il y a la billetterie, il y a des systèmes différents qui font qu'on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup d'argent.
Puisque vous aimez tant la relation à l'artiste, pourquoi n'êtes-vous pas agent, Thierry Suc?
Ah, c'est une bonne question. En France, la place de l'agent, c'est compliqué. Le marché francophone permet difficilement d'exister. Je crois faire le métier de producteur comme si j'étais également le manager de l'artiste. C'est-à-dire, je manage la carrière scénique, voilà, plus exactement. Et ça, ça me plaît.
Une question, Mehdi, à Thierry Suc?
Non, je rebondis sur ce qui est intéressant dans ce qu'il raconte et ce qui fait que le moteur... Alors, je comprends pourquoi c'est cette obsession de l'argent et de connaître les budgets, parce que forcément, c'est énorme. Quand on va voir ces spectacles, on est émerveillé et on se rend bien compte devant nos yeux. Moi, je suis allée voir Starmania et j'étais estomaquée. J'ai envoyé un message à Thomas après. Non, je l'ai vu après. Thomas Joly, metteur en scène, et je lui ai dit mais est-ce qu'il reste des lumières à Boulogne ou pas? Quand j'ai vu le spectacle.
C'est vrai que c'est la première chose qui impressionne quand on voit Starmania. Le travail de la lumière.
Le travail de la lumière sur Starmania.
Thomas de Chandon qui a créé la lumière. Ouais. Thomas de Chandon, faut le dire parce que c'est vraiment.
C'est cool et c'est magnifique. Et je comprends pourquoi la question elle est obsédante aux yeux du public parce qu'on s'interroge sur ça. Mais ce qui est surtout intéressant dans ce qu'il raconte, c'est que le moteur de départ, c'est vraiment l'artiste et le projet et comment est-ce qu'on va réussir à le faire exister et faire rêver les gens. Moi, ce qui me touche énormément en tant qu'artiste, et c'est pour ça que je me prends la tête et que je dors mal, c'est comment est-ce que je vais permettre aux gens d'échapper à leur quotidien, d'oublier leur quotidien. Tu rentres une heure dans une salle, tu me fais confiance pour penser à autre chose et te libérer l'esprit. Et c'est ça qui...
C'est tellement vrai.
Qui ouais, nous habite, quoi.
Et peu de gens sont capables de faire ça, hein, Thierry Suc.
Bah, on verra.
Nous, on n'est pas capables, par exemple.
Tout le monde est capable.
C'est pour ça qu'on admire.
Mais non, tout le monde est capable. C'est juste d'écouter sa fibre artistique.
On a au téléphone une artiste qui, elle aussi, peut nous faire rêver. C'est Lucie Antunes, qui est compositrice. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez travaillé avec Mehdi Kerkouche sur le ballet Portrait, qui est toujours en train de tourner, qui a bien vécu, entre autres, à Paris, à la Scala. Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Puisque Portrait, c'est une histoire de famille. On voit, nous, spectateurs, des neuf danseurs de tous les âges qui dansent une histoire familiale. La famille, c'est un lieu merveilleux, mais c'est aussi un lieu de la névrose. Alors, qu'est-ce que la compositrice a pu faire de ce thème-là?
On a beaucoup parlé avec Mehdi et d'abord il m'a laissé une carte blanche totale et ensuite on a resserré parce qu'au final il savait très bien ce qu'il voulait, une musique qui était cinématographique et qui pouvait vraiment porter la danse. Du coup, quand je lui ai proposé des choses plus expérimentales, là c'était un peu moins le propos, donc on a fait beaucoup d'essais ensemble. Ce qui était très intéressant dans ce travail, c'est qu'on a commencé ensemble. Mehdi, il tenait vraiment à ce que la musique soit au centre, ce qui m'a fait évidemment immensément plaisir, et on a débuté tout ensemble. Lui, évidemment, il savait déjà ce qu'il voulait, et du coup, pouvoir lui faire ses propositions et travailler un peu en huis clos pendant quelques temps, ça a été super parce que je lui ai donné pas mal de matière de recherche, Après, il est venu étirer, puis au final, ça a fini dans mon studio où il s'est mis derrière moi. Et il m'a dit à peu près, voir précisément ce qu'il voulait que je fasse, jusqu'à ce que je le jette de mon studio. Et on se retrouve dans notre travail là-dedans, dans l'exigence qu'on a et la précision qu'il voulait, voilà, jusqu'à ce qu'il n'a pas exactement son résultat, bah, il lâchera pas, quoi. Donc ça, c'est vachement intéressant.
On va écouter un petit extrait de cette musique et donc imaginer, pour ceux qui n'ont pas vu, le ballet Portrait. On entend un beat là assez rapide, on imagine ce que vous demandez aux danseurs. Ils doivent être épuisés à la fin.
Oh non, ça va.
Ah, moi j'étais impressionné par l'investissement de chacun.
C'est vrai, c'est oui. Très gentil. Non, déjà j'ai des danseurs extraordinaires, il faut leur rendre hommage à tous les niveaux.
Encore une fois, de tous les âges sur ce ballet.
Absolument, ils ont entre 19 et 68 ans au plateau. Et ouais, c'est magique, mais après c'est une histoire de famille. Et déjà je suis trop touchée, je suis trop heureux que Lucie soit là également, parce qu'on travaille en famille et on crée des familles de travail quand on commence des projets comme ça. La Portrait, on a commencé à le travailler en 2022, on est en 2024, ça continue de tourner, ça va continuer de tourner jusqu'en 2025, donc c'est formidable de s'entourer aussi bien.
Et c'est intéressant de savoir que vous étiez vraiment l'un avec l'autre quasiment tout le temps, jusqu'à ce qu'elle vous sorte de son
après,
studio.
Il y avait confiance totale en Lucie. Nous,
parce qu'il y a les 9 danseurs, mais il y a un personnage principal qui est cette musique.
Absolument. Complètement. Et puis le mouvement part de la musique. Je suis persuadée qu'il doit y avoir une grande connexion entre le mouvement, en tout cas ce que moi j'ai envie de raconter, et la musique. C'est ce qui va venir faire vibrer les spectateurs. Et c'est ce que je disais de la musique de Lucie Antunes. Lucie crée de la musique électronique, mais elle est hyper organique, elle est hyper vibratoire. Moi, je sais que ça me fait des guilis dans le ventre, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est hyper organique?
Bah déjà, Lucie fait de la musique électronique avec des instruments en live. Donc c'est faut le voir, Lucie Antunes en live. Je vous invite à aller la découvrir. Elle est en festival, elle est en tournée, elle est magique.
Elle sort des disques aussi.
C'est une expérience. Elle sort des disques. Elle vient de sortir la réédition de son album Carnaval, qui est brillant. C'est vibratoire. Tout est. Et puis elle vient de la percussion à la base. Donc il y a des choses qui sont hyper vibrantes. Moi, j'ai pas d'autres mots là pour
le moment. C'est toi qui l'avais repéré. Tu avais repéré son travail.
On s'est rencontrés grâce à une grande maison qui nous a connectés pour un projet. Ils nous ont commandé une création ensemble et on a eu un coup de cœur artistique l'un pour l'autre. Ah, et c'était en 2021 et on ne s'est pas lâché depuis.
Lucie Antunes, vous êtes quelqu'un d'assez solitaire, j'imagine. Dans votre petit studio, vous créez votre musique. À la fois, au départ, vous êtes instrumentiste, batteuse et percussionniste. Mais il y a cette musique électro qui est arrivée. Est-ce que c'est bon de collaborer avec un chorégraphe ou un autre artiste?
Oui, surtout avec la danse. Je suis solitaire quand je compose, mais je m'inspire énormément des arts visuels et surtout de la danse. Il s'avère que j'ai mon atelier au 104 à Paris, qui est un lieu artistique absolument fabuleux et qui invite les gens du quartier, mais pas que du quartier d'ailleurs, à venir s'entraîner dans un espace qui est partagé et libre. Donc il y a des gens qui viennent faire du théâtre, d'autres qui viennent danser, de toute danse qui existe. Et donc du coup, moi, pour aller dans mon studio, je dois traverser ces danseurs et danseuses. Et donc du coup, je reste souvent un instant les regarder. Et c'est vrai que ça m'inspire énormément. Donc, moi, écrire pour la danse, c'est sans doute ce que je préfère faire. Voilà. Mmh.
Vous êtes extrêmement sollicité, vous, Thierry Suc. Là, on a en face de nous un danseur qui est chorégraphe, qui est patron d'un centre de danse chorégraphique. Tout le monde frappe à votre porte, non? Tout le monde a envie d'être produit par quelqu'un qui fonctionne bien.
Ah, c'est pas aussi simple que ça, et heureusement d'ailleurs. Non, je crois que vraiment qu'il y a des familles. Tout à l'heure, Mehdi faisait référence aux gens qui nous relient, parlait de la Dissa Chola, il y a Marion Motin, on a plein de gens autour de nous. Il y a des familles artistiques comme ça. Il y a des artistes pour lesquels je suis sûr qu'on a rien en miroir l'un avec l'autre, et je ne pourrais pas travailler avec eux ou avec elles, et inversement. Donc, non, encore une fois, on en revient au cœur, je crois que ça peut paraître banal de dire ça, mais je serais incapable de travailler avec certaines personnes. Non, tout le monde vient pas, tout le monde ne veut pas venir, et tant mieux.
Est-ce que vous avez une façon particulière de travailler?
Je crois.
Décrivez-la nous, parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est que votre travail au fond.
Tout à l'heure, vous disiez l'écoute. Je crois que la première des choses, c'est l'écoute, c'est apprendre à se connaître. Mon rôle, il est de mettre les crins pour l'artiste. Encore une fois, il y a plusieurs parties dans ce travail. Si jamais je travaille avec Mylène ou avec Florence Foresti, j'amène les crins. En tout cas, je fais partie de l'équipe qui amène l'écran, qui amène toute la structure. Si je travaille pour le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier, on crée le spectacle. Avec Jean-Paul, avec Tony Marshall, avec Marion Motin, on est en création. Donc c'est deux parties très différentes. Et la part artistique, elle est plus sur les longs spectacles, comme Starmania, c'est moi qui ai amené Thomas Joly, etc.
Je réfléchis au terme écrin. Quand on est Mylène Farmer, c'est énorme l'écrin. C'est quoi? C'est la superficie d'une scène? C'est tous les jeux de
lumière? Non, c'est éventuellement des gens qu'elle ne connaît pas, des light designers, des gens qui font des décors. Mais après, c'est elle, qui, bien sûr, qui décide quel décor elle veut. Donc c'est plus une rencontre. Encore une fois, c'est l'humain. Toujours l'humain. Je crois que le jour où j'arrêterai ce métier, la partie qui me manquera, ce sera les relations humaines. Parce que, bien, forcément, après, chacun va vivre sa vie. Mais je n'aime que cela. Voilà, je m'en fiche.
Lucie Antunes, vous travaillez dans des lieux comme l'IRCAM, qui permet à beaucoup d'artistes de peaufiner justement leur matière sonore et musicale?
Oui, je travaille à l'IRCAM. J'y ai travaillé quelques fois, en tout cas, et c'est prévu que j'y retourne. Je viens vraiment de la musique contemporaine, donc c'est des lieux qui me sont familiers pour la recherche sonore, qui est ce que je préfère faire. Je pourrais être étudiante toute ma vie, parce que vraiment, c'est... Ce que j'aime, c'est pouvoir chercher. Une fois que c'est trouvé, finalement, j'ai déjà envie de passer à autre chose. Voilà, donc c'est vrai que l'IRCAM permet vraiment d'avoir ces espaces où on peut être complètement immergé et chercher des matières comme le faisait John Cage, mais avec vraiment en plus la technologie maintenant, qui sont des pédales d'effet, mais aussi là-bas à l'IRCAM, il y a des scientifiques qui se mettent à disposition pour pouvoir faire l'impossible.
Merci Lucie Antunes, on va écouter une chanson sur laquelle on peut danser, c'est Hervé, Dans la peau.
Le soleil brille quand j'étais dans la peau, t'es né n'est qu'un détail, nous deux on s'attire, on s'en dit trop, ensemble jusqu'au
C'était Hervé sur France Inter, dans la peau.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Avec Mehdi Kerkouche, avec Thierry Suc et avec vous qui nous écoutez, nous avons à présent rendez-vous avec un peintre, Thomas Lévillane. Bonjour.
Bonjour Vincent.
Vous exposez vos toiles réalistes à la Galerie des Filles du Calvaire, c'est à Paris, dans le deuxième lieu de la galerie ouvert il y a un an, rue Chapon. On entre dans la galerie, on tombe sur un grand tableau de vous où des policiers casqués sont regroupés dans une ZAD. Certains sont debout, certains sont assis dans la boue. On est tous frappés par le réalisme de la scène, par le soin que vous apportez à chaque détail. J'ai l'impression que pour vous, Thomas Lévillane, peindre, c'est tout montrer avec une extrême précision et peut-être même ce qu'on ne remarque pas.
Oui, j'aime bien avoir des sujets un peu difficiles, un peu tragiques, notamment sur le sujet de la dérive climatique, mais par contre je les peins avec beaucoup de soin, parce que j'ai une espèce d'injonction contradictoire dans ma manière de peindre, c'est-à-dire que j'aime le monde, j'aime le montrer, j'aime démontrer par la peinture que j'aime le monde des apparences, donc je prends soin à rendre les matières, la lumière, l'air, les gens et tout ça, mais en même temps je montre des choses un petit peu difficiles, puisque je montre des espèces de stigmates de notre époque où j'essaie de montrer que, on voit pas vraiment ce qu'on sait, Donc, par exemple, je peins une plage avec un front de mer à Ostende, très urbanisé. Moi, je suis un peu inquiet de savoir comment ce front de mer va évoluer avec la montée des eaux.
Mais le pire, c'est que on a l'impression que la mer avance sur la ville dans votre tableau. C'est assez, assez remarquable.
De fait, je le vois comme ça.
Vous pardonnez à le peindre.
Voilà.
Il y a aussi ce groupe humain qui se retrouve sous une serre, donc au milieu d'une végétation, et ça fait presque peur quand on reste un certain moment devant, parce qu'on se dit qu'il y a un monde fou, et qu'ils vont plus pouvoir respirer, en tout cas que les végétaux ne pourront plus respirer. Il y a quelque chose d'excessif dans la présence humaine.
Oui, ça arrive souvent dans des situations où on croit qu'on va aller se détendre, qu'on va se divertir, qu'on va vivre un bon moment. Donc là, c'est des visiteurs dans une serre, et puis évidemment, ils sont beaucoup trop. Et donc, il y a un côté cauchemardesque là-dedans. Et en plus, dans ce tableau-là précisément, j'ai mis 2 ans à le faire. J'essaie de traiter les plantes de la même manière que les hommes, c'est-à-dire avec le même soin. Et donc, il y a un côté comme ça, saturation visuelle, qui fait qu'on manque un peu d'air.
Sur Instagram, parce que lui aussi, comme vous, Thomas Lévillane, utilise beaucoup les réseaux sociaux, Mehdi Kerkouche, quand la série de portraits, son dernier ballet, s'est terminée à la Scala de Paris, il a écrit « C'était long, c'était plein, c'était formidable, la danse attire du monde », et il a ajouté « Le monde n'est pas aussi foutu qu'on nous le fait croire ». C'est pas ce que vous dites, vous, quand vous peignez. Vous êtes plus pessimiste, Thomas Lévillane.
Alors, je suis très pessimiste, et en même temps, ça serait quand même difficile de dire que je suis pessimiste, parce que je passe énormément de temps à faire des tableaux que j'espère le plus beau possible, donc ça veut dire que je crois à un futur, parce que sinon j'arrêterais de faire des tableaux. Donc non, moi je suis plutôt optimiste, et je me bats plutôt pour la dignité humaine, c'est-à-dire qu'on s'en rende compte, qu'on croit enfin en ce qu'on sait, et qu'on se bouge, quoi.
Quand j'ai vu votre exposition l'autre jour, Thomas Lévillane, je rappelle que c'est à la Galerie des Filles du Calvaire, celle qui se trouve 21 rue Chapon à Paris et qui s'intitule « L'impuissance », il y avait un ado qui a dit à son père « on croirait des photos ». Est-ce que c'est une phrase qui vous agace ?
Pas du tout, parce que, comme dirait David Hockney, la photographie, c'est le langage le plus partagé dans le monde, avant l'anglais ou le chinois. Et c'est une manière pour moi d'accueillir le spectateur. Moi, j'aime beaucoup peindre pour tout le monde, pas peindre pour des spécialistes de l'art ou des critiques d'art et des choses comme ça. Et donc, presque une séduction comme ça d'avoir un tableau qui ressemble à une photographie. Et généralement, ce que j'aime, c'est que là, les gens, ils regardent ça de loin, puis d'un coup, physiquement, ils se retrouvent à être le nez collé au tableau, à regarder les détails. Il y a plein de petites surprises un peu partout. Et d'un coup, c'est de la peinture, voilà.
Il y a même 2 toiles qui ne sont pas achevées. Et je trouve ça formidable d'exposer des tableaux pas terminés.
Oui, alors ça, je me suis permis ça parce que je me bats beaucoup pour la peinture en France et que ça se décontracte. La situation est beaucoup plus décontractée aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et je trouvais ça intéressant de montrer le travail parce qu'il y a un côté toujours très efficace, très fini, très bon élève dans les galeries d'art et dans les expositions. Et le fait de montrer le travail, ça me paraissait important aujourd'hui, où le travail est justement de plus en plus effacé, c'est-à-dire que du Deliveroo à l'Amazon, à tous ces trucs-là, on fait semblant d'arriver avec des choses toutes bien faites, sans montrer le travail. Or, moi, la fabrique, c'est un sujet qui me passionne, et je trouve ça aussi beau parce que les tableaux, ils poussent comme des plantes, en fait. Donc là, par exemple, les tableaux qui sont pas finis, ils vont pousser comme des plantes dans mon exposition, et au fur et à mesure, ils vont évoluer, donc on peut revenir voir l'exposition. Voilà. Et d'ailleurs, je précise que l'exposition est au fond d'une cour, donc faut pas hésiter à rentrer dans l'immeuble, aller au fond, parce que c'est un peu impressionnant. L'exposition est gratuite, évidemment, c'est dans une galerie d'art, comme toutes les galeries, c'est gratuit. C'est une des rares trucs gratuits à Paris, donc n'hésitez pas à venir. Et l'autre chose, c'est que d'un coup, c'est au fond d'une cour, mais c'est très grand et très beau. Voilà.
Vous savez vous vendre.
La beauté qui peut sauver le monde, en fait, dans ce que vous dites, je trouve que ça fait vraiment écho.
Oui, c'est Thierry Suc, le producteur, qui parle, Thomas.
Oui, oui, mais alors, la beauté, moi, je trouve tout beau. Donc, j'ai un petit problème à faire des hiérarchies entre les choses, parce que ça va du coccinelle à un bout de plante saxicole dans un coin, je trouve ça beau. Je trouve ça beau à partir du moment où on en prend soin, c'est-à-dire qu'on le regarde et qu'on le contemple et qu'on prend du temps dessus, quoi. Voilà.
Intéressant.
Merci beaucoup. On ira voir ou revoir L'impuissance de Thomas Lévillan à la galerie des Filles du Calvaire. Et puis, on peut aussi voir ses interviews de peintres contemporains. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission aussi, Thomas Lévillan. Vous allez sur sa chaîne YouTube et sur Twitch également, ça s'appelle Les Apparences. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Vincent, bonne journée.
La peur de la dérive écologique, la peur du réchauffement climatique, est-ce que tout se danse, Mehdi Kerkouche ?
Toutes les émotions et tous les sentiments, assurément, oui.
La preuve, ce qui se passe dans la famille, ça se danse.
Complètement. Complètement. C'était surtout les relations et les rapports. Effectivement, c'est une pièce de groupe, c'est une pièce où les danseurs sont nombreux au plateau, mais c'est des gens qui ne se sont pas choisis. Ça me fait beaucoup rire de dire ça, parce que c'est eux qui m'ont choisi, c'est eux qui sont venus et qui ont répondu à cette envie de danser avec
Certains
moi.
Certains viennent du jazz, d'autres du hip-hop, enfin il y a tous les courants.
Mais parce qu'il n'y a pas de case.
Encore une fois, on y revient.
Parce qu'il n'y a pas de case. Effectivement, c'est des danseurs, si on s'attache sur leur histoire, ils viennent de plein d'environnements différents, ils ont des formes et des physiques différents, ils ont des... Parce qu'il y a cette idée du ballet où les corps sont tous similaires, identiques, pour avoir des vrais ensembles. Je suis persuadée que non, c'est une énergie avant tout qui prime. Et là, c'est un propos, une histoire, et c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de séparation, c'est une histoire de... On y projette ce qu'on a envie à l'intérieur de cette vie de famille, mais c'est ni plus ni moins ce qu'on vit tous au quotidien.
Vous faites aussi danser des gens comme Thierry Suc et moi.
Je fais danser tout le monde. Tout le monde peut danser.
On y va, Vincent.
Moi, j'aimerais bien que vous me donniez un peu d'audace, parce que je suis peut-être un petit peu coincé. Et je ne sais pas si vous seriez prêt à danser. Par exemple, au Louvre, bientôt, on pourra voir Mehdi Kerkouche nous enseigner la danse au milieu des œuvres, juste avant l'ouverture du musée.
Exactement.
Ce sera en avril, qu'est-ce qui va se
Exactement.
Passer
Exactement. En fait, j'ai reçu une invitation du musée du Louvre, ce qui est complètement lunaire, pour imaginer un événement chez eux. C'est vrai que cette année, tout le monde est très mobilisé autour de ce qui va se passer cet été à Paris. Ça commence par Olin, ça finit par PISM. Et donc de réfléchir à des événements et à des choses. Et ils m'ont demandé d'imaginer un événement où la danse rencontre le sport. J'ai eu envie instinctivement de proposer ces matinées avant l'ouverture du musée, c'est assez magique. Moi,
à partir de 7h45.
Je suis allée visiter le musée quand il était fermé au public et j'ai pleuré parce que c'est absolument magnifique de se retrouver au milieu de ces salles avec ces œuvres incroyables. Et effectivement, on va faire notre morning workout, on va aller faire du sport et de la danse dans le plus grand musée du monde.
Il faut s'inscrire ?
Il faut s'inscrire, et parce que les places vont être très limitées, parce que justement, c'était assez exceptionnel de se retrouver au milieu de ça, et pour que ça reste exceptionnel, il faut qu'on reste en petit groupe, quoi. Donc du coup, effectivement, il faut s'inscrire rapidement.
On va donner les dates de la tournée de Portrait, parce que ça continue encore un petit peu. Pour savoir ce que vous faites à Créteil, il faut aller sur ccncreteil.com. Mm-hmm. Le Louvre, vous allez aussi sur le site du musée du Louvre. Il paraît que la présidente du Louvre est à fond sur ce que vous allez faire là-bas. Merci d'être venu, Mehdi Kerkouche.
Merci de l'invitation.
Impression de mieux vous connaître, et merci Thierry Suc. Les concerts de Mylène Farmer annulés fin juin au Stade de France suite aux émeutes se dérouleront en
septembre 2024 jusqu'au 1er octobre.
Il reste des places ?
Pratiquement rien, on va dire, vraiment. Rester 40-50 sur des côtés, mais si quelqu'un veut rentrer, il doit y avoir 40-50 places.
Dépêchez-vous. Stéphanie Texier a réalisé cette émission, Karen D m'a aidé à la préparer, Valentine Chedebois a programmé la musique, il y avait aujourd'hui à la technique Ludovic Asselot. Vous pouvez réécouter l'émission bien sûr sur franceinter.fr et nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter.